répliques, situation de la France avec Jacques Julliard et Pierre Manant. Il est impossible de parler de la situation de la France aujourd'hui sans se référer aux actes de guerre commis au début de l'année 2015 à Paris, Montrouge et Vincennes. Nous commencerons donc par là cette discussion avec Pierre Manant qui publie un livre déjà controversé et précisément intitulé « Situation de la France » aux éditions des Clés de Brouwer, et avec Jacques Julliard qui s'apprête à faire paraître chez Flammarion dans la collection Café Voltaire « L'école est finie ». Après ces actes de guerre, une nation est descendue dans la rue et un slogan s'est imposé « Je suis Charlie ». Reprenez-vous ce slogan à votre compte et quel sens donnez-vous à cette mobilisation, Pierre Manant?
Je ne reprends pas le slogan à mon compte, d'abord parce qu'en général je ne reprends pas de slogan. Ensuite, parce que ce slogan, employons le terme, dit « je ». Il dit « je » dans une situation où, personnellement, j'aurais préféré que l'on dise « nous ». J'aurais préféré que l'on dise « nous », nous la France, ou alors, si le mot « France » paraît trop restrictif, « nous tous ensemble ». Nous tous ensemble. Et je crois que le caractère extrêmement, à mes yeux, politiquement précaire de ce slogan traduit bien la situation dans laquelle nous sommes, cette difficulté à mettre en parole les problèmes qui se posent à nous autrement que en disant « je, tu », en dehors de cette, en quelque sorte, individualisation de la vie collective. Nous ne savons plus comment dire « nous », nous ne savons plus comment signifier la chose commune. Et cela me paraît, et si j'ose dire le drame de ce slogan, c'est que précisément au moment où il veut dire la révolte ou l'indignation de la chose commune, il ne sait dire que je. Voilà.
Vous n'avez pas eu le sentiment, Pierre Manant, que
le sentiment était profondément sincère et non et, mais et comment dire entraînant. Il était rassemblant de fait, mais étrangement, il se disait par un mot séparateur.
Jacques Julliard.
Moi, je pense l'inverse. Le jeu, d'abord, je me reconnais dans « Je suis Charlie ». Moi non plus, j'abuse pas des slogans. Mais enfin, je me suis reconnu dans celui-là par ce qu'il signifiait. Et je vais y venir immédiatement. Mais pour dire un mot à propos du « je » dont vous venez de parler, moi, je trouve au contraire que par rapport à toute la littérature que nous avions connue depuis des années. La littérature du social, la littérature du collectif, qui au fond engage si peu l'individu. Là, le fait que les gens, qui sont quand même rassemblés, soient venus en disant « je », ça avait valeur à mes yeux d'engagement personnel, et ça avait un caractère assez nouveau par rapport à tout ce que nous avions connu précédemment. Et moi, j'ai vu là-dedans, oh, je ne dirais pas une sorte de serment type fête de la Fédération en 1790, mais néanmoins d'une sorte de ressaisissement des individus à l'intérieur de la communauté nationale. Et ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que ce slogan « Je suis Charlie » faisait allusion à une certaine idée de la France, inévitablement. Et cette idée, je me suis également, avec des nuances, parce que on a tous son « Je suis Charlie », bien entendu. C'est inévitable, c'est souhaitable d'ailleurs, c'est normal dans une communauté nationale. Mais enfin, il y avait précisément, et c'est là que je diffère de vous, un sentiment du national. C'est pas pour rien que les gens étaient venus, et moi ça m'a beaucoup surpris, avec une forêt de drapeaux français. D'ordinaire, on ne voit plus ça que dans les matchs de foot, ou parfois de rugby. Mais là, les gens étaient venus avec des drapeaux français. Ça avait une signification très forte. Et donc, pour moi, c'est contrairement au pessimisme qui est ambiant dans votre livre, ça avait valeur de ressaisissement de la communauté nationale. Alors, après, est venue la déception, parce que après un grand acte comme ça, viennent toujours des déceptions. Mais enfin, le fait a été posé, et c'est très important.
Alors, si, que ce soit l'expression d'un ressaisissement de la communauté nationale, je l'accepte tout à fait volontiers. J'adhère à la proposition. Le seul problème, c'est est-ce que cette communauté nationale a trouvé les moyens de prolonger ce mouvement prometteur.
J'ajouterais un mot, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont dit, et ils l'ont dit ensemble quand même, « Je suis Charlie », à un moment où Charlie même n'était plus tout à fait Charlie, parce que la bande de Charlie était constituée de post-68ards qui batifolaient dans la post-histoire, et l'histoire leur est tombée dessus brutalement, sous la forme d'un ennemi dont ils avaient longtemps refusé, en quelque sorte, de concevoir la simple hypothèse. Et l'ennemi les a changés contre ce qui lui est apparu comme la lâcheté du multiculturalisme. Charb a défendu une conception intransigeante de la laïcité. Et il faut savoir que le livre, hélas, testamentaire de Bernard Magnès, était précisément un hymne à la France. Et dans le « Je suis Charlie », il n'y avait pas que ça. Il y avait « Je suis Charlie »,« Je suis la République »,« Je suis juif »,« Je suis la police ». Et voir autour de Charlie des gens manifester leur soutien au CRS, devenu soudain la police républicaine qui veillait sur leur sommeil, c'était un paradoxe sidérant et quand même assez émouvant, Pierre Manant. Donc il s'est quand même passé quelque chose là.
Émouvant, bien sûr. Nous en sommes d'accord. Mais que faisons-nous de cette émotion?
Effectivement, le fait que les diverses composantes de la communauté nationale, y compris celles qui s'opposent traditionnellement, ça allait des syndicats, au corps constitué, en passant, comme vous l'avez dit, justement par la police, et ça c'était partout, et ça voulait dire que la France, je ne trouve pas de meilleur mot, que se ressaisissait, c'est-à-dire se saisissait elle-même en tant que communauté. Et on va pas revenir sur le jeu. Alors la question que pose Pierre Manant est en effet la question: qu'allons-nous en faire? Les choses se développent dans le temps. Hein, c'est une affaire. Nous sommes entrés dans un temps long du point de vue, au fond, de la confrontation que vous menez dans votre livre avec le monde musulman. Car c'est avec le monde musulman que vous menez la confrontation.
Alors justement, qu'allons-nous? Alors ce « nous », il était unanime jusqu'à un certain point. La nation, le peuple est descendu dans la rue, mais tout le monde l'a marqué, pas les quartiers populaires. C'était le peuple sans les quartiers qu'on appelle désormais populaires. Donc la césure, la division
sensible,
française...
Parce que...
Ou sensible.
Oui, parce que je ne sais pas si le 18e, le 19e, le 20e arrondissement, quartier populaire, était là. Ce que je sais, effectivement, c'est que la banlieue, oui, la banlieue avec les jeunes immigrés...
N'était pas là.
Était là
majoritairement absent.
Un petit peu.
Oui.
Mais
et Marseille est une ville où il y a eu moins de manifestants qu'à Clermont-Ferrand.
Nous sommes d'accord. C'était inévitable.
Mais alors justement, là j'en viens à votre thèse, Pierre Manant. Vous parlez de c'est vous-même qui parlez des actes de guerre de janvier 2015. Vous dites: nous sommes en guerre, nous sommes en butte à une inimitié, nous devons nous défendre. Nous devons nous défendre et nous devons réagir face effectivement à cette division dont la France témoigne aujourd'hui. Mais précisément, vous dites: nous devons nous défendre, et quelques pages plus loin, notre régime doit céder et faire franchement leur place aux mœurs musulmanes. Alors, parce que cette communauté est devenue trop forte pour notre laïcité, il faut en prendre acte et en tirer les conséquences. Alors voilà, il y a quelque chose d'assez paradoxal que je vous demanderai d'élucider, Pierre Manant.
Donc vous me donnez quelques
minutes. Je vous donne du temps, bien entendu, je vous donne tout le temps que vous voulez.
Premièrement, Jacques Julliard a dit que mon livre est une confrontation avec l'islam. Non, mon livre est une réflexion sur la situation de la France, plus généralement sur la situation et l'histoire des nations européennes dans les circonstances présentes. Donc, dans les circonstances présentes de la nation, la question de l'islam est en effet une question majeure, mais j'essaie d'examiner aussi la question du judaïsme, la question du christianisme. Bref, si mon livre est quelque chose, c'est un essai sur la France comme nation européenne, pour laquelle aujourd'hui, en effet, l'islam est une des questions les plus difficiles à traiter. Alors, vous me dites, vous avez l'air de trouver une sorte de contradiction entre la première affirmation, nous sommes d'une certaine façon en guerre, il y a quelque chose comme une guerre, et de l'autre, trouvons les moyens d'accueillir la communauté musulmane française dans la communauté nationale. Moi, je n'y vois pas de contradiction, j'y vois au contraire une parfaite solidarité. Les deux propositions, d'ailleurs, ne sont tenables que si elles sont tenables ensemble. La guerre, passons vite. Je ne déclare la guerre à personne. Je dis simplement, l'armée française est de fait sur le pied de guerre. Elle est engagée dans le Golfe. Elle est engagée en Afrique de l'Ouest. Des milliers de soldats français défendent des écoles, des lieux de culte en France. Donc, en bon français, l'armée française est sur le pied de guerre. Le Premier ministre parle de l'ennemi intérieur. Il en a parlé à plusieurs reprises. Donc, les mots ont un sens. La conduite du gouvernement a un sens. Si nous nous défendons contre un ennemi, je suppose qu'il y en a un. Donc, nous nous défendons contre un ennemi qui soit nous a déclaré positivement la guerre et a conduit des actes de guerre, soit qui a manifesté son inimitié de façon diverse. Et une des conditions de la vie, et d'abord de la survie dans le monde humain, c'est de reconnaître l'inimitié quand on la rencontre. Bon. Donc reconnaissons que nous sommes en butte au moins à une inimitié qui se traduit éventuellement, et trop souvent dans la dernière période en France, par des actes de guerre caractérisés. Deuxième point.
Non mais ça, personne ne le conteste. Le gouvernement a dit...
Je viens de répéter ce que dit le gouvernement. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Deuxième point, le fait que nous soyons exposés à une inimitié, le fait que nous soyons exposés à des actes de guerre, ne concerne pas, en tant que tel, la communauté des musulmans français. Ils sont citoyens français, nous devons partager la même nation, et précisément pour que l'inimitié d'une partie du monde musulman ne rende pas trop difficile le partage de la même cité avec les musulmans français, il faut parvenir à une intégration effective de nos concitoyens musulmans dans la nation française. Or, c'est un point sur lequel aussi, je crois, l'on sera d'accord, cette intégration est défaillante, que le terme d'intégration convienne ou ne convienne pas. Donc, le propos de mon livre consiste à essayer de tisser ensemble une politique vigoureusement défensive, si j'ose dire, à l'égard de la pression extérieure d'un islam hostile, et une politique la plus amicale possible et la plus intégrante possible à l'égard de nos concitoyens musulmans, chose pour laquelle je propose, je ne dispose de rien dans ce pays, je propose quelque chose que j'appelle commodément un compromis, où il y a en effet, comme dans tout compromis, des concessions dans un sens et des exigences dans l'autre. Et on pourra discuter ensuite des concessions et des exigences, mais c'est cela l'esprit général de mon propos.
Mais face à une laïcité trop dure, vous demandez, dans le cadre de ce compromis permanent, d'accepter franchement les mœurs de nos concitoyens musulmans, puisque précisément, ils sont nos concitoyens. Donc il s'agit, c'est de cela qu'il s'agit pour vous, accepter leur mœurs jusqu'à un certain point, c'est-à-dire la burqa non comprise.
Si je vous permettez que...
Oui, Jacques Julliard.
J'en vienne au fond à l'essentiel. Moi, je suis sceptique sur votre analyse et interloqué quant à vos conclusions. En ce qui concerne l'analyse, vous faites de la laïcité, deux, de l'islam, des analyses que je ne partage pas. En ce qui concerne la laïcité, vous dites des choses d'ailleurs un peu contradictoires à ce sujet, c'est pas là-dessus que porte ma contestation, puisque tantôt vous faites de la laïcité une forme de recouvrement de la société longtemps, à vos yeux encore assez largement, chrétienne et de l'État républicain, et tantôt vous faites de la laïcité l'expression même de l'illusion de l'homme moderne, de la vacuité de l'homme moderne. Or, et vous dites, c'est pour ça que ça marche pas. On peut pas faire un compromis avec les musulmans sur la base de la laïcité à la française. J'espère ne pas vous déformer en disant cela. Or, moi, je crois au contraire que la laïcité à la française est le seul moyen de faire pas seulement un compromis, parce que moi, je ne veux pas d'un compromis avec les musulmans. Je veux d'une association, je veux d'une intégration des musulmans. Et de ce point de vue-là, la laïcité est le seul moyen d'y parvenir. Et du reste, je crois que le christianisme a fini par l'accepter. Pendant des siècles et des siècles, il n'y avait rien de plus hostile. L'Église était totalement hostile à la laïcité. Encore au milieu du siècle, dans Quantacura, le pape Pie IX fait de la laïcité quelque chose d'horrible. Or, 70 ans après, les chrétiens acceptent la laïcité, en font même parfois un drapeau. Alors, que s'est-il passé? Vous dites, il n'y a pas de transsubstantiation possible de l'islam. L'islam sera toujours l'islam et les musulmans seront toujours les musulmans. Moi, je ne suis pas sûr du tout de cela. Moi, je constate que les musulmans en France, on ne pleurait même pas le mot communauté, eh bien, ils connaissent des évolutions variées. Les uns, parmi les jeunes, sont fascinés par le djihad et par la haine de l'Occident, c'est vrai. Mais il y en a beaucoup d'autres qui s'intègrent. Ils font beaucoup moins de bruit, mais ils s'intègrent. Et quant à la laïcité, je ne suis pas sûr du tout que au bout d'un délai X, les musulmans n'accepteront pas cette laïcité aussi bien que les chrétiens l'ont acceptée. Je ne vois pas, ni théologiquement, ni politiquement, où serait la différence. Si j'ai encore un instant, je voudrais dire mon deuxième point de désaccord. Hein, il porte précisément sur l'islam lui-même. Je n'arrive pas à comprendre comment... à la fois vous êtes à l'extérieur et vous devenez une sorte d'intégriste de l'islam. L'islam est une totalité du point de vue des mœurs. Et ça a des conséquences terribles, parce que, à l'exception de deux choses que vous dites, non au voile intégral et non à la polygamie. En dehors de ça, il faut accepter les mœurs musulmanes, y compris l'infériorité de la femme. Moi, personnellement, comme Français, et concernant mes compatriotes musulmans français, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. C'est quelque chose qui doit évoluer, qui a évolué chez les chrétiens, qui a évolué chez les athées, chez les libres penseurs. Il n'y a pas de raison que ça n'évolue pas aussi chez les musulmans. En tout cas, je n'accepte pas cette espèce de yalta que vous proposez entre les mœurs musulmanes et les mœurs non musulmanes à l'intérieur de la société française. Je ne veux pas d'une sorte de charia à l'intérieur de la société française.
Cher Jacques Julliard, que vous acceptiez ou non, les réalités sociales sont les réalités sociales. Je veux dire, la laïcité déclaratoire, nous en bénéficions depuis 30 ans, avec des effets que chacun peut voir. On voit à quel point la laïcité à la française a réussi, en effet, à produire les résultats que vous souhaitez. Bon, donc, je pars de ce constat, les choses ne vont pas bien. Nous sommes déjà dans un pays laïque. Nous sommes déjà dans un pays qui ne cesse de célébrer la République et les valeurs de la République. Et on peut dire que d'année en année, il semble que le diagnostic soit toujours de plus en plus décourageant sur la situation de la France et en particulier sur sa cohésion nationale. Donc, je pars de cette réalité. Vous me dites, l'islam, vous l'absolutisez, ce n'est pas le terme que vous avez employé, vous en faites un bloc. Non, c'est non, vous, non, 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 non.
Un je, tout, vous dites un
je
tout.
Je dis, non, 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 non. Je dis, je peux pardonnez-moi, je peux aussi
un
me citer.
Un tout significatif et un mouvement, mais il est vrai que c'est...
Je peux même me citer, mais non, je dis simplement, l'islam, évidemment, évoluera. Nous pouvons le souhaiter. Nous l'espérons. J'espère moi aussi qu'il évoluera dans le sens que vous dites. J'espère moi aussi que les relations entre les sexes dans l'ensemble de nos concitoyens musulmans sera plus conforme à ce que nous souhaitons. Simplement, ce que je dis, c'est que cette évolution est dans un délai que nous ne pouvons pas déterminer. Nous n'en avons pas la maîtrise. Et je parle simplement de la situation présente, de l'islam aujourd'hui comme fait social. Et comme fait social, ce que je crois constater, c'est en effet plutôt une consolidation ou une extension d'un ensemble de mœurs musulmanes qu'on peut dire. Alors, bien sûr, il faut distinguer, il y a beaucoup de musulmans ou d'origine musulmane qui ont jeté par-dessus bord les mœurs musulmanes, nous en sommes bien d'accord, mais il reste que le résultat, pour le moment, il y a cet ensemble humain qui, en effet, reste caractérisé par des mœurs distinctes. Et c'est si vrai que vous évoquez ce qui est pour vous un obstacle majeur, qui est la différence de traitement des hommes et des femmes dans l'islam, ce qui suppose bien que, en effet, ces mœurs ont une caractéristique stable, durable et problématique.
Oui, alors justement...
Durable, je ne sais pas.
Alors, durable, on ne sait pas.
Et ensuite, je voudrais dire quelque chose sur la laïcité, mais je vous en prie.
Oui, je pense, ce qu'il y a de très fort dans votre livre, Pierre Manon, c'est que vous ne vous laissez pas intimider par le discours qui dénonce comme islamophobe tout discours général sur l'islam, qui fait comme si l'islam n'existait pas, qu'il n'y avait qu'une infinie variété de musulmans. Non, c'est un agent historique, vous avez raison, je crois, et que c'est un fait social déterminé par des mœurs, même s'il faut accepter qu'il y a beaucoup d'exceptions. Mais là où je rejoins Jacques Julliard, c'est sur la question de la femme, dans votre compromis. C'est-à-dire, vous dites que ce qui apparaît à l'opinion commune, c'est la condition subordonnée de la femme musulmane. Donc, c'est pas forcément vrai, ça apparaît à la communion commune. Et vous vous interrogez sur l'évidence des mœurs contemporaines. Vous dites que c'est le seul sujet à propos duquel l'ethnocentrisme est non seulement permis, mais obligatoire. Donc vous semblez vous prendre des distances avec cette forme d'ethnocentrisme et donc vous critiquez implicitement cette polarisation française, notamment sur la question du voile islamique. Et là, moi, j'aurais deux objections à faire. D'abord, ce ne sont pas les mœurs contemporaines. Ça a quelque chose à voir avec l'Europe, mais surtout avec la France. Tous les voyageurs l'ont dit, du 17e au 20e siècle, à la France, pays des femmes, comme disait Hume. La France était l'empire des femmes à l'âge classique, qui s'appelait lui-même l'âge galant. C'est les femmes qui donnaient le ton dans la société. Et j'ai lu récemment une nouvelle de Isaac Babel. Celui-ci était rudente dans un hôtel et son voisin de chambre lui disait nous en France depuis mille ans que nous existons, quelque chose comme ça, nous avons créé les femmes, la femme, la littérature, la cuisine, et ça personne ne pourra nous l'enlever. Donc le rapport spécifique de la France et des femmes, ça signifie quelque chose, et il me semble que dans Je suis Charlie, il y avait aussi cette manière de dire nous sommes la France, et le rapport des hommes et des femmes, la présence des femmes dans la société, dans les cafés, partout, ce n'est pas négociable. Et j'ajouterais pour terminer que certains musulmans nous soutiennent. J'ai sous les yeux la déclaration d'insoumission de Fethi Benslama, un psychanalyste d'origine musulmane, où il dit ceci: En islam, l'oppression des femmes ne dégrade pas seulement la femme, mais organise dans l'ensemble de la société l'inégalité, la haine de l'altérité, la violence ordonnée par le pouvoir mâle. Et il dit le voile occulte les signes maléfiques dont le corps de la femme est porteur en tant que tel. Et en effet, on peut, s'il y a tant de violence dans le monde islamique aujourd'hui, et de Daesh au quartier sensible, avec toutes les gradations qu'on peut faire, c'est peut-être lié aussi à la relégation des femmes et à la frustration formidable qu'elle engendre. Donc là-dessus, je vous trouve un peu cavalier de dénoncer, comme vous le faites, notre obsession ethnocentriste. Non, il y a peut-être un ethnocentrisme de bonne aloi.
Oui, non, d'abord je ne dénonce pas. Vous voyez quand même la direction où Jacques Julliard et vous, Alain, allez dans ces dernières remarques, parce que vous allez à durcir et radicaliser ce qu'on appelle aujourd'hui l'altérité de l'islam. Dans votre dernière phrase, Alain, vous tendiez à essentialiser en islam une sorte de contradiction, d'oppression intégrale et intégrante de la femme par rapport à laquelle nous devons
non, je pensais qu'il fallait en quelque sorte aider à libérer les musulmans de cette oppression dont les hommes en fait sont aussi souffrent autant que les femmes. C'est alors, ça que je voulais dire.
Si vous permettez, il faut savoir sur quoi nous avons du pouvoir. Il faut savoir sur quoi nous avons du pouvoir. Il faut savoir aussi les limites de notre pouvoir. Nous sommes tous d'accord qu'il y a des choses à interdire formellement, même celles sur lesquelles nous sommes d'accord qu'il faut les interdire formellement et que la loi interdit formellement. Il n'est pas certain que la loi soit tellement strictement appliquée. Donc nous mesurons déjà les limites de notre pouvoir. D'autre part, nous sommes d'accord sur un autre point, sur le fait que certains aspects des mœurs musulmanes, en particulier concernant la condition des femmes, réclament, parfois avec urgence, une réforme. Bon. Quel est le meilleur moyen d'obtenir cette réforme ? Bon. Et je crois qu'en général, le meilleur moyen d'obtenir cette réforme, c'est de faire participer les musulmans à la nation française, de leur faire partager une éducation commune de la nation française, et que c'est par la voie, si j'ose dire, indirecte de la vie civique, de la participation à la République française, de la participation franche et ouverte à une République qui est leur horizon désormais naturel, qu'ils peuvent s'arracher, se rendre indépendants de la pression des mœurs musulmanes qui, en effet, dans le monde arabo-musulman pris comme un tout, a les conséquences que nous voyons. Donc, cette prise d'indépendance par rapport, je dirais, à la tendance, à l'attraction des mœurs musulmanes dans ce qu'elles ont de, à nos yeux, je pense à juste titre, de répréhensible, c'est par cette amitié ouverte à la nation française que l'on peut les en détacher. Voilà.
Jacques Julliard.
Pierre Madan, si vous n'aviez dit que ça, je n'aurais pas été choqué par votre livre comme je le suis. Dire qu'il faut, vous venez depuis un instant de faire un discours d'intégration que nous pouvons tous partager et que je crois nous partageons tous. Mais il n'y a pas que ça dans votre livre. Il y a l'idée d'un compromis,
oui,
entre l'islam, pas même les musulmans, mais l'islam et le reste de la nation française.
Non.
Et vous, écoutez, alors là, il faut que je vous cite.
Non, parce pardon, que vous permettez.
J'ai encore dit qu'une phrase. Vous dites, le communautarisme est inévitable. Il est même souhaitable, dites-vous. Préconisez une communauté musulmane à l'intérieur de la communauté nationale.
Non. Bon, alors écoutez, vous permettez.
Il y a peut-être un malentendu. Bon, vous permettez un malentendu. Alors, vous prenez la parole tout de suite, Jacques Julliard, mais alors qu'est-ce que vous voulez dire par là, Pierre Manon ?
Non, je dis que la communautarisation est déjà là. La communautarisation est déjà là. La communautarisation est le problème.
Oui.
Ce n'est pas la solution. Donc, comment faire pour que la communautarisation musulmane, ou la communauté musulmane, échappe au communautarisme ? Le communautarisme, c'est la rétraction sur la communauté étroite, oui, par manque de confiance dans la communauté nationale.
D'accord.
Donc, ce que je dis simplement, c'est que l'on veut que les musulmans ne restent pas dans le communautarisme ou n'y glissent pas, c'est qu'il faut leur donner confiance dans la communauté nationale, qu'ils n'aient pas peur de se perdre dans la communauté nationale.
D'accord. Vous voulez que je vous lise ce que vous avez écrit ?
Non, mais peu importe. Et qu'est-ce que vous pensez de cette phrase-là ?
Quand même.
Jacques Julliard.
Non,
il est vrai que...
J'ai écrit dans le livre ce que je viens de dire.
Moi,
je suis assez averti de ma propre pensée, Jacques Julliard.
Non, mais il s'agit des auditeurs. Une certaine communautarisation est inévitable. Elle est même souhaitable, dans la mesure où elle prévient le mensonge idéologique de la nouvelle laïcité, etc., etc. Et tout ce dernier chapitre, qu'est-ce qu'il propose ? Il propose un compromis où les mœurs des musulmans, telles qu'elles sont définies, ils sont définis par l'islam en tant que religion, seraient, à deux exceptions près que vous dites, la polygamie et le voile intégral, acceptées par la société française. Autrement dit, on fait en quelque sorte de la France un recueil de communautés. Ce que vous dites des juifs va dans le même sens. On aboutit à quoi ? On aboutit à la libanisation de la France, à l'existence de communautés. Du reste, vous avez un avant-dernier chapitre où vous parlez très bien d'ailleurs de l'Église catholique, de son rôle central et d'une certaine manière centriste aujourd'hui dans notre société. Soit, mais moi, en tant que citoyen français, je ne veux pas d'une société libanaise où il faudrait, si on est musulman, accepter tout l'islam, et surtout quand on est une femme. Si l'on est chrétien, accepter, je dirais, toute l'Église, mais ça, c'est fini, je crois que vous avez quelques illusions. Et si on est juif, accepter exclusivement la judaïté. Moi, si je parle de laïcité, c'est parce que je crois que une société moderne est constituée d'individus, que ces individus ont des attaches, mais qu'ils existent en dehors de ces attaches, ou plutôt de ces chaînes que vous voulez, ou en tout cas dont votre dispositif aboutirait à les renforcer. Alors, loin d'être cette espèce d'amitié dont vous parlez, moi je crois que ce que vous proposez, qui n'a aucune chance d'advenir d'ailleurs, heureusement, c'est une sorte de paix armée entre une société politique qui serait constituée par des religions juxtaposées, c'est une régression à l'état pur.
Oula. Pierre Manin.
Écoutez, la parole est libre, la lecture aussi, et l'interprétation de ce qu'on lit l'est aussi. Alors, je dis, nous sommes dans un pays libre, le membre de l'Église, le membre de la communauté juive, le membre de la communauté musulmane fait ce qu'il veut dans notre pays. Bon.
Et beaucoup d'agnostiques.
Bien sûr.
Non, il ne faut pas les oublier.
Donc parmi les choses, en quelque sorte, qui doivent être absolument préservées dans notre régime, j'y insiste, il y a évidemment la totale liberté de parole et de pensée. Donc, toutes ces communautés dont je parle vivent et vivront dans une société libre. Donc, les visions effrayantes qui vous assaillent n'ont pas de chance de se réaliser si ce que je recommande est pris au sérieux. Alors, je voudrais tout de même dire un mot sur la laïcité. J'ai dit sur la laïcité deux choses. La laïcité a été une formule heureuse à un moment, très heureuse, à un moment de l'histoire de l'Europe et en particulier de l'histoire de la France. Elle avait un certain sens. Aujourd'hui, cette laïcité n'est plus pertinente pour la situation dans laquelle nous nous trouvons. D'abord, je le notais tout à l'heure, la laïcité est déjà là, donc on ne peut pas tout de même parler d'une laïcité à venir alors qu'elle est avec nous, elle est exercée pleinement sans apparemment produire les résultats que l'on souhaite. Pourquoi dis-je que la laïcité, telle que nous en avons fait l'expérience, n'est pas pertinente aujourd'hui? Tout simplement parce que l'hypothèse ou le présupposé de la laïcité est absente dans le cas de l'islam. Qu'est-ce qu'était l'hypothèse ou le présupposé de la laïcité? C'était une nation partagée, une longue éducation commune, une longue éducation commune, un partage de la langue, de la littérature et de la familiarité réciproque. La France catholique et la France républicaine, prenons les termes les plus généraux et les plus réalistes, la France catholique et la France républicaine partageaient quoi ? Ils partageaient la France, ils partageaient la langue française, ils partageaient la littérature, et donc c'est à l'intérieur d'une même famille partageant cette longue éducation commune que les disputes se produisaient et que les accommodements se sont produits. Donc, ce que je dis simplement, c'est que cette familiarité réciproque, ce long compagnonnage sont évidemment absents de la relation de la France aujourd'hui avec ses concitoyens musulmans. Donc, tandis que dans le cas de la laïcité à la française, disons cela, il s'agissait d'écarter l'Église de l'État, de diminuer sa puissance sociale et d'assurer une éducation libre de toute influence de l'Église ou en général des religions, dans le cas de l'islam, il s'agit au contraire de faire entrer véritablement l'islam dans la nation. Donc, la seule chose que je demande, mon propos n'est pas un propos séparateur, c'est un propos intégrateur. C'est un propos d'entrer dans une amitié civique commune. Et la seule chose que je dis, et notre divergence, car elle est là, elle n'est pas ailleurs, notre divergence est là, c'est que je crois que les groupes sont beaucoup plus consistants, Jacques Julliard, que vous ne le dites. Nous ne sommes pas simplement ces individus libres d'attache. Et s'agissant des Juifs, on voit bien qu'aujourd'hui, la condition juive, ce n'est pas Clermont-Tonnerre. Ce n'est pas tout comme individu et rien comme peuple. On voit qu'aujourd'hui, le peuple juif s'est reconstitué, il s'est refondé comme appartenance collective. Comme appartenance collective.
Jacques Julliard, et ensuite je m'inviterai dans la conversation si vous le voulez bien. Jacques Julliard.
Alors juste deux petits points. Vous dites la preuve qu'il y a une sorte de fond commun entre les laïcs français et les catholiques français, pour faire très gros, c'est que lorsque la République est arrivée au pouvoir, elle a diffusé la littérature, elle a fait du XVIIe siècle un grand siècle. J'avoue que l'explication me paraît quand même un peu courte. Parce que, enfin, le 17e français, tel qu'il a été enseigné dans les écoles, tel que je l'ai subi, c'est pas un siècle chrétien, du tout. La littérature française du 17e n'a rien de chrétien, si vous enlevez Pascal, qui était très peu enseigné. C'est pas du tout cette espèce de rapprochement sur des valeurs communes. C'est pas vrai. Le 17e, c'est l'exaltation de l'honneur, c'est l'exaltation de la puissance. C'est Louis XIV. Moi, j'ai jamais vu, à travers le 17e qu'on m'a enseigné, les valeurs chrétiennes. Et elles étaient même pas toujours dans Pascal. Deuxième point. Vous dites... Bon, ça peut marcher entre chrétiens et français laïcs, enfin pour faire vite, ça peut pas marcher avec les musulmans. Je vous renvoie à un très beau livre que vous avez certainement lu, l'un et l'autre. C'est Le problème de l'incroyance au siècle de Rabelais par Lucien Febvre. Qu'est-ce qu'explique Lucien Febvre là-dedans ? Que ce pays était entièrement christianisé, il vivait dans la chrétienté. Tous les signes extérieurs, toutes les marques, comme vous aimez à dire, étaient des marques chrétiennes. De sorte que un écrivain avant lui, un historien avant lui, avait fait la démonstration que la France ne pouvait pas devenir un État laïque, d'ailleurs le monde n'est pas d'époque, ne pouvait pas concevoir l'incroyance. Et pourtant, Lucien Febvre, un grand historien, montre que depuis les cloches qui sonnent, jusqu'au rythme des saisons, jusqu'aux bénédicités, surtout, tout était marqué par le christianisme. Et pourtant, au bout d'un certain temps, alors suivant des problèmes, eh bien, cette France chrétienne devient une France athée et même une France déchristianisée. Ce qui est arrivé au christianisme, pour le meilleur et le pire, parce qu'il n'y a pas que du pire là-dedans, et arrivera, j'en suis convaincu, à l'islam. J'en suis convaincu. Ou alors, c'est, il y aura toujours des intégristes, mais ils seront abandonnés comme ils sont déjà abandonnés.
Écoutez,
La virulence actuelle de Daesh, etc., c'est la réaction de gens qui sont en train, qui ont compris qu'ils étaient en train de perdre la partie contre le monde moderne.
Alors, voilà. Pour
le ciel vous entend.
Un vocabulaire. Oui, Dieu vous entend. Le ciel vous entend. Là, je suis peut-être un peu plus sceptique, mais quand même, je voudrais dire un mot sur la laïcité pour contribuer à cette discussion. La laïcité en Europe, c'est un penseur chrétien, c'est Pascal qui en a donné la meilleure définition, me semble-t-il, avec la distinction des ordres, quand il a parlé de l'indépendance de l'ordre du spirituel. On n'était plus dans le dualisme, hein, de la terre et du ciel. Tout d'un coup, il y avait les grandeurs de l'esprit qui avaient leur propre raison d'être.
Il y a la distinction des trois ordres.
Et Kundera le dit à sa manière dans un texte très important, Un Occident kidnappé. Dans les temps modernes, quand le dieu médiéval se transforma en Deus absconditus, la religion qui était, sur laquelle reposait l'unité de l'Europe, céda la place à la culture, qui devint la réalisation des valeurs suprêmes par lesquelles l'humanité européenne se comprenait, se définissait, s'identifiait. Vous avez quelques termes un peu sceptiques, un peu condescendants, Pierre Manant, sur l'Europe de la culture, mais il me semble que c'est ce qui a permis précisément à Lévinas, un homme qui a beaucoup fait pour la renaissance du judaïsme français, de dire que la France est une nation à laquelle on peut s'attacher par l'esprit et par le cœur aussi fortement que par les racines. Et là, j'en viens à votre ouvrage, Jacques Julliard, L'école est finie. Le rôle de l'école, c'était précisément de réaliser pour tout le monde, quelle que soit son origine, cette assimilation ou cette intégration à et par la culture. Or, justement, la grande difficulté avec les musulmans d'aujourd'hui, c'est qu'ils résistent à cette forme d'intégration. Et là, j'en reviens à la question du voile, parce que dans un rapport que vous avez peut-être lu, le rapport Aubin de 2004, les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires, il nous est fait état d'un phénomène beaucoup plus large que la question du voile et d'une toute autre ampleur. Et ce phénomène, voilà comment il le définit, ce qu'il est défini dans ce rapport. Tout laisse à penser que dans certains quartiers, les élèves sont incités à se méfier de tout ce que les professeurs leur proposent, qui doit d'abord être un objet de suspicion, comme ce qu'ils trouvent à la cantine dans leur assiette, et qu'ils sont engagés à trier les textes étudiés selon les mêmes catégories religieuses du halal autorisé et du haram interdit. Et on a cette situation vraiment tragique, où l'école ne transmet plus la culture aujourd'hui, veut de moins en moins le transmettre, et vous avez un nombre croissant d'élèves qui ne veulent pas la recevoir, et si des professeurs n'aiment pas voir des étudiants ou des élèves ou des étudiantes revêtus du voile islamique, c'est parce que le voile islamique, c'est une manière d'afficher complet. C'est-à-dire, vous me proposez votre savoir, mais moi, j'ai une sagesse suprême du haut de laquelle je juge votre savoir et je fais le tri. Et c'est là la difficulté. Et il me semble que, devant cette difficulté, aucun compromis n'est possible. La proposition que peut faire la France, que vous devrez pouvoir refaire la France, c'est précisément l'intégration à et par la culture. Pierre Manant.
Vous avez totalement laissé de côté, excusez-moi, nous avons beaucoup parlé de compromis, la seconde partie du compromis.
Oui,
vous avez raison. Je propose une concession.
Et vous en demandez d'autres. Vous en demandez des concessions en retour.
Je réclame un retour. C'est une façon un peu simple de présenter les choses, mais au moins, c'est souvent ainsi que l'on procède en politique. Ce que je réclame, en quelque sorte, des musulmans, c'est quelque chose de considérable. C'est quelque chose de considérable et qui, précisément, pour résoudre autant que possible le problème que Alain vous venez de poser, serait d'une grande importance. Il faut absolument, si l'on veut en effet surmonter ces difficultés, que les musulmans français fassent de la France, de l'éducation française, du parcours d'éducation français, l'horizon naturel de leur vie personnelle et collective. Et la condition pour cela, c'est qu'ils je ne dirais pas rompent, mais qu'ils prennent leur indépendance par rapport au reste du monde arabo-musulman.
Eh ben voilà,
mais vous avez lu dans le livre.
Mais hein. Vous avez lu mon livre, Jacques.
Oui, oh c'est, oui, j'ai lu deux fois.
Bah, écoutez, vous n'avez pas retenu ça, c'est extraordinaire. Donc, le point principal, c'est que, et le plus difficile, non seulement pour les musulmans, mais pour le gouvernement français, mais pour la France, c'est d'imposer que les mosquées, que les associations culturelles et cultuelles dépendent de moins en moins d'agences, de pays, de financement et d'organisations étrangères et soient de plus en plus organisées par des musulmans français parlant français.
Ça peut être efficace à l'ère d'Internet.
Alors, parce écoutez,
que l'indépendance veux, à l'égard
permettez-moi des... simplement de faire juste une remarque. Nous sommes sous le gouvernement et le régime de la laïcité. Nous en sommes bien d'accord et nous partageons tous les principes de la laïcité au sens de la neutralité religieuse de l'État. Si j'en juge par ce que l'on a dit récemment, il semble que les imams français devraient être désormais éduqués au Maroc ou une partie d'entre eux. Le Maroc, pays ami, pays excellent à tous égards, est tout de même une monarchie et le monarque est aussi commandeur des croyants. Donc je trouve tout de même extraordinaire que la laïcité confie la formation de ses imams à une monarchie dont le chef, dont le monarque est aussi commandeur des croyants, c'est-à-dire très exactement le contraire de l'idée même de la laïcité.
Pour une fois, je vais dire d'accord à tous les deux.
Vous avez le droit d'être d'accord avec moi, parfois.
Oui, absolument. Vous voyez jusqu'où va ma liberté d'esprit.
Alors, non. Vous êtes d'accord avec quoi, exactement?
D'abord, avec ce que vous avez dit, Alain, et qui figure aussi dans le livre de Pierre Manant, à savoir que l'éducation nationale... Ça figure aussi dans le mien. Hein.
Mais oui, c'est même le cœur de votre livre.
L'éducation nationale a trahi sa mission d'une vraie éducation laïque lorsqu'elle a abandonné la formation civique au sens propre du terme, lorsqu'elle a abandonné l'ambition nationale, lorsqu'elle a abandonné la culture nationale, lorsqu'elle a abandonné la littérature nationale. Il n'y a pas d'autre raison. Enfin, c'est la raison, en tout cas, la plus profonde de mon opposition frontale aux réformes qui sont actuellement en cours, parce que, effectivement, et là, Pierre Manant, je vous donne raison, elles vont dans le sens inverse de celles qu'il faudrait. Cela dit, moi, je n'aime pas votre compromis, parce que ce compromis, ça consiste à installer l'islam en tant que religion au cœur du dispositif politique français. Je n'ai jamais voulu que le christianisme soit au sens du dispositif politique. Je ne le veux pas plus, je dirais presque moins, même certainement moins, quand il s'agit de l'islam. Or, ce que vous proposez, d'un bout à l'autre du livre, et surtout à la fin, c'est bel et bien une négociation. D'ailleurs, ça va dans le sens de ce que disent les politiques aujourd'hui. Ce qu'ils veulent, c'est un interlocuteur. Alors, il vaudrait qu'il y ait une religion musulmane instituée qui n'a jamais existé et qui là, je prends les risques, n'existera pas de très longtemps et par là on nomme tous les musulmans parce que ce serait enchaîner les musulmans à leurs conditions religieuses. Or les Français musulmans n'ont pas à être enchaînés à leurs conditions religieuses.
Jacques Julliard, vous devez tenir compte de la réalité.
Mais je tiens compte de la réalité.
Il y a une présence réelle, massive, de l'islam en France aujourd'hui, qui modifie notre paysage urbain. Et ce n'est pas, si vous voulez...
J'ai pas dit le contraire. J'ai dit que l'État, en tant que tel, n'a pas à reconnaître... à légitimer, ce qui est encore plus grave, à légitimer une présence qui se voudrait une présence religieuse institutionnelle.
Vous préférez que ce soit des États étrangers ?
Non.
Il faut d'abord que l'islam de France prenne son indépendance.
Ce que je préfère, c'est que ce soit les Français musulmans qui prennent leurs décisions.
Bien sûr.
Et mon pari, car il faut du volontarisme, vous le dites vous-même, mon pari, c'est que les musulmans français choisiront majoritairement le statut français que le statut islamique. Et j'en veux pour preuve l'attitude extrêmement difficile, parce qu'elles sont sous l'intimidation, sous la menace, sous les coups parfois, de toutes les femmes musulmanes qui subissent une condition, et beaucoup d'entre elles sont venues en France pour, en espérant y échapper.
Et vous parlez de l'intimidation, mais cette intimidation, elle a lieu en France aussi.
Absolument.
La pression de la communauté
c'est ce
est
que
extrêmement
c'est
forte.
C'est ce que je dis.
Oui, ça veut dire que ces femmes-là, dont je suis d'accord avec vous, il faut absolument soutenir le combat, il faut reconnaître aussi qu'elles sont extraordinairement minoritaires. Qu'elles ont une partie importante de leur environnement, de leur communauté contre elles.
Je connais pas mal de musulmans et de musulmanes. La plupart de ceux que je connais, et de toutes conditions, hein, depuis des intellectuels jusqu'à des travailleurs manuels, ils résonnent beaucoup plus en héritiers d'une tradition qui comprend la laïcité, qui comprend la liberté de penser, qu'en fils de l'islam. Il y a une intimidation, vous avez complètement raison, et cette intimidation, nous ne devons pas, en quelque sorte, l'institutionnaliser en créant un islam institutionnel, nous devons la combattre.
Pierre Malan.
L'essentiel, si c'est possible, c'est en effet que les musulmans de France s'organisent eux-mêmes, y compris dans la diversité de leurs expressions, qui, je suis sûr, est vaste. Simplement, il faut que, en quelque sorte, cette expression qui leur est ouverte, je dirais, soit facilitée par ce que moi je considère plutôt comme un geste d'amitié que comme une concession ou une faiblesse. Entrer dans la communauté nationale et dans cette communauté, trouver les voies d'une vie partagée.
Voilà. Oui, mais Pierre Manon, on va en terminer là-dessus, mais geste d'amitié, est-ce que se montrer hospitalier, ce n'est pas précisément d'abord réaffirmer les lois de l'hospitalité et l'assimilation tant décriée était amicale, parce que c'était une manière de dire, voilà, nous avons un trésor, un héritage, et cet héritage, nous ne sommes pas les propriétaires exclusifs, nous le proposons à ceux qui viennent vivre sur notre sol. Est-ce que c'est pas aussi ça l'amitié? Une proposition forte, venez nous rejoindre en reprenant à votre compte l'histoire à laquelle vous allez vous-même participer.
Oui, bien sûr, mais si j'ose dire, faisons ce mouvement, non pas avec un islam possible, mais avec l'islam réel tel qu'il est là.
Merci beaucoup Pierre Manant, merci Jacques Julliard. Je voudrais rappeler les titres de vos livres. Pierre Manant, Situation de la France, chez Desclée de Brouwer. Jacques Julliard, L'école est finie, dans la collection Café Voltaire chez Flammarion. Les deux livres vont paraître dans quelques jours, mais vous pouvez, et je vous conseille même, de les commander d'ores et déjà chez votre libraire. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Le sens de la République et nous inscrirons dans la suite de la discussion menée aujourd'hui. Mes invités seront Georges Bensoussan et Patrick Veil. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Jean-Louis Deloncle. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet, Des migrants en nombre immense, Le cas irlandais avec Philippe Chassaigne.